c'est un plaisir pour moi d'accueillir Étienne Patin de l'Institut Pasteur. Pas rien, et puis on en avait parlé avec ici même mon collègue et ami Luis Quintana Murci. On voit bien comment, de part et d'autre, voilà, des spécialités peuvent se lancer des ponts. Et donc, on progresse, on poursuit dans notre recherche sur la peste noire en se posant maintenant la question des conséquences sur l'évolution et la santé humaine, en étant maintenant de plein pied avec la génomique. Donc, nous vous remercions et nous vous écoutons. Et si ça ne vous embête pas, je vais aussi me rejoindre au premier rang.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être présent aujourd'hui, de participer à ce séminaire sur les nouvelles recherches sur la peste noire. Je tiens à remercier donc vivement Patrick et puis également Étienne de m'y avoir convié. Alors, il faut bien comprendre que ma présence aujourd'hui tient surtout à la volonté des organisateurs de parler de nouvelles recherches sur la peste noire. Dans mon cas, la recherche est tellement nouvelle qu'elle n'a même pas commencé. Donc, concrètement, je pourrais faire une présentation de 3 minutes si je devais vous parler de mes résultats. Mais il peut paraître aussi utile de parler des fondations de ce projet dont je vais vous parler et également des retombées qu'on peut attendre de ce projet. Mon espoir est que ce projet puisse éclairer d'un nouveau jour cette grande question qui est celle de la peste noire et de cette manière, d'une manière relativement inédite, qui est celle de la génétique des populations. Donc, mon objectif est donc de mieux comprendre cette problématique de la peste noire par cet angle qui est celui de la génétique des populations. Et en réalité, ce que j'aimerais faire avec ce projet, c'est d'essayer de mieux comprendre, si possible, les causes de la peste noire, c'est-à-dire pourquoi est-ce que cette pandémie a été particulièrement meurtrière. Et là, je parle principalement de la première vague dont on va reparler après. Et également de mieux comprendre les conséquences de cette peste noire. Parce qu'on parle beaucoup d'essayer de comprendre ses causes, mais les conséquences sont tout aussi importantes. Et qu'est-ce que j'entends par conséquences? J'entends ici les conséquences biologiques sur nous-mêmes et notre susceptibilité aux maladies. Alors, si les orateurs de la première journée de ce séminaire vous ont bien fait comprendre à quel point la peste noire a eu des effets profonds sur la société, sur sa démographie, mais également son économie, sa littérature, voire son art, on n'a pas encore parlé vraiment de l'effet de la peste noire sur la biologie. Et je vais commencer donc par donner une petite introduction là-dessus. En réalité, donc, la peste noire pointe son nez en biologie dans les années 50-60, peu après la mise en place du concept de polymorphisme. Alors, qu'est-ce que j'entends par polymorphisme? Il s'agit de cette découverte des biologistes du fait que nous ne sommes pas tous les mêmes au niveau biologique. Un exemple que vous devez forcément connaître, c'est le groupe sanguin, ABO. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe plusieurs groupes sanguins reliés au système ABO, le groupe A, B, AB et O. Ces différents groupes correspondent en réalité à la présence ou à l'absence à la surface de nos érythrocytes d'une glycoprotéine qui prend plusieurs formes chez l'homme. Et donc on commence à comprendre qu'effectivement on a ces différences biologiques, on commence à les décrire dans les années 50 particulièrement, et également on commence à compter simplement à quel point on a des individus qui ont le groupe A, le groupe B, le groupe AB, le groupe O dans la population humaine. Et là, on remarque, si on prend l'exemple de cette salle, qu'on devrait avoir 45% d'individus qui sont A, 43% qui sont O, et ainsi de suite, donc 9% groupe B, et puis uniquement 3% de groupe AB. Très bien. Mais en tant que biologiste, on veut aussi se demander pourquoi est-ce que ce polymorphisme existe? Et deuxièmement, on veut savoir pourquoi à cette fréquence? Pourquoi est-ce que le groupe O est à 43% de fréquence dans la population européenne? Alors, ça a été la démarche principale d'un monsieur qui s'appelle Mourant, qui propose une distribution, de montrer une carte de la distribution géographique, ici du groupe O en particulier, dans toutes les populations humaines. Donc là, on est vraiment au tout début de la génétique des populations appliquées chez l'homme. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le groupe O est assez peu fréquent en Asie centrale, en Asie de l'Est, peu fréquent aussi en Europe, toute la région méditerranéenne, alors qu'on va la trouver plus fréquente dans les populations africaines et vraiment très fréquente, voire fixée quasiment, dans les populations amérindiennes. Alors déjà à l'époque, Mourant faisait cette hypothèse que la distribution du groupe O était peut-être liée à une exposition à des pathogènes dans le passé. Cette première hypothèse, elle va être mise en avant encore plus dans une série de publications qui datent de 1960-62, donc vous voyez, ce n'est pas tout récent, en tout cas dans la discipline de génétique des populations, c'est l'archéologie. Donc des publications dans la revue Nature, principalement par deux chercheurs allemands de Berlin, donc Pettenkofer et Vogel. Et dans ces publications, ils vont émettre l'argument que si le groupe O est moins fréquent en Europe et en Asie centrale et ainsi de suite, c'est parce que il a été sélectionné par sélection naturelle parce qu'il nous rendait plus susceptibles à la peste. Et voilà. Voilà la peste qui débarque dans la génétique des populations et elle va revenir encore et encore, comme je vais vous le montrer, comme la principale cause de nos polymorphismes génétiques, en tout cas ceux qui sont reliés à notre système immunitaire, à notre sang, et également qui sont particuliers des populations européennes et du Proche-Orient. Donc l'idée ici, c'est qu'il y a une corrélation entre la distribution du groupe O et ce qu'on pense à l'époque être la distribution des pandémies de la peste, corrélation, je précise, pas un rapport de causalité. Et deuxièmement, il y a des expériences qui ont été faites et qui tendent à faire penser que, alors, pour ceux qui sont familiers avec les anticorps, ainsi de suite, ils vont comprendre tout de suite, sinon ce n'est pas très grave, le pathogène Yersinia pestis a à sa surface des petites molécules qui ressemblent au groupe O. Quand on met des anticorps groupe O chez Yersinia pestis, il y a une réaction. Et donc l'idée derrière ça, c'est qu'en fait, si on a des anticorps contre groupe O, nous, on peut se défendre contre Yersinia pestis. Très bien. Mais qu'est-ce qui se passe si nous-mêmes, nous sommes du groupe O? On n'a pas d'anticorps contre le groupe O, sinon on s'attaquerait nous-mêmes. Donc, les groupes O sont susceptibles à l'infection par Yersinia pestis parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'anticorps contre le groupe O. Très bien. Donc l'hypothèse est lancée, 1962. Peut-être que si on voit moins de O en Europe, en particulier, c'est parce que les personnes qui avaient ce groupe sanguin au moment des pandémies étaient plus susceptibles à la peste. Et avec le temps, ces individus ont eu moins d'enfants que les autres, sélection naturelle, le groupe O diminue en fréquence. Alors, cette hypothèse a fait couler pas mal d'encre, et quelques semaines après la publication, on a une réponse assez froide de deux chercheurs, Springer et Wiener, qui eux sont à New York, et qui vont complètement démonter cette hypothèse. Et leurs arguments principaux sont les suivants. Le premier, on ne parle que de corrélation, encore une fois, entre distribution du groupe O et les pandémies passées, et pas de causalité. Qu'est-ce que j'entends par là? Peut-être qu'on peut imaginer la causalité réverse de celle qu'on a faite juste précédemment, c'est-à-dire les populations qui ont été les plus touchées par la pandémie le sont parce qu'ils étaient déjà O. Plus qu'avant. Donc c'est exactement l'inverse de ce qui a été proposé par Pettenkofer et Vogel. L'autre chose, c'est qu'en refaisant les expérimentations, ils se rendent compte qu'en réalité, le résultat dépend de quelle souche on prend de Yersinia pestis, et également la réponse est assez faible. Donc bon, bref, le gâteau s'écroule, mais cependant, la graine a été semée. Quelle graine? Celle de la peste noire comme cause de nos différences génétiques et également nos différences de polymorphisme protéique entre populations. Et cette graine, eh bien, elle donne une plante, vu qu'on voit apparaître un certain nombre de publications dans les années qui suivent, qui vont faire exactement la même hypothèse encore et encore. La peste noire est responsable de nos différences génétiques. Et ça concerne quoi? Par exemple, une mutation bien connue, vous ne connaissez peut-être pas, mais qui s'appelle la mutation Delta 32 dans le gène CCR5. Et cette mutation, elle est à 10-20% en Europe, absente du reste des populations humaines, et elle donne une protection très forte contre l'infection par le HIV, par le VIH. Donc là encore, l'idée est que bon, l'infection par le VIH étant une infection récente, ce n'est pas le VIH qui a fait que cette mutation qui nous protège contre l'infection a augmenté en fréquence, mais peut-être un autre pathogène. Et évidemment, tout le monde se tourne naturellement vers la peste noire et Yersinia pestis. L'autre élément qui tenait à soutenir cette idée, c'est qu'on peut en réalité dater la date d'apparition d'une mutation dans notre génome avec des méthodes mathématiques, et elle a été datée à peu près à la période de la deuxième pandémie. Encore une fois, quelques mois après, réponse de d'immunologistes principalement qui ont complètement démonté cette hypothèse pour ce qui est de CCR5 bêta 32. Il n'y a pas de raison immunologique pour que ce gène nous protège contre la peste noire. Alors, je ne vais pas faire le détail de toutes les études parce qu'il y en a un paquet. On a aussi des gènes qu'on appelle les récepteurs de type TOL, les Toll-like receptors, TLR, qui eux également ont été étudiés en détail et qui seraient peut-être intervenus également dans cette protection contre la peste. Et un dernier exemple qui est pour le cas assez solide d'une mutation dans un gène qui s'appelle MEFV, qui est responsable d'une maladie, la fièvre méditerranéenne. Cette mutation, elle est très fréquente dans le bassin méditerranéen. Et ce qui est assez étonnant, c'est que cette mutation, même si elle crée une maladie, elle nous rend malade, elle nous donne cette fièvre méditerranéenne, et bien elle est à 10% de fréquence quasiment. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas au niveau de notre théorie habituelle de la sélection naturelle. Une mutation qui nous rend malade, elle a tendance à diminuer en fréquence. Et là, encore une fois, les auteurs évoquent la peste noire pour essayer d'expliquer pourquoi cette mutation donne une maladie, mais est fréquente dans la population. C'est parce qu'elle protège contre la peste. Et là, ils utilisent également donc, des arguments principalement expérimentaux pour expliquer qu'effectivement, ce gène-là, qui code la pyrine, peut avoir un rôle dans la réponse immunitaire à l'infection par Yersinia pestis. Très bien. Donc, on peut cependant s'arrêter un instant et se dire, est-ce qu'ici, on a quand même des données qui sont fiables et qui nous permettent vraiment de dire la peste est responsable de ces polymorphismes génétiques. En réalité, on peut, encore une fois, refaire ressurgir les arguments qui avaient été donnés précédemment par les mêmes personnes, donc Springer et Wiener. Toutes ces données-là ne permettent pas de répondre à trois choses. Un, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ces mutations nous protègent réellement contre la peste? Deuxièmement, est-ce que ces mutations ont été sous sélection naturelle? Et troisièmement, même si elles ont été sous sélection naturelle chez l'homme, est-ce que c'est vraiment la peste qui en est responsable? Et c'est un peu l'objectif du projet dont je vais vous parler maintenant. Un projet qu'on a engagé depuis normalement 2 ans, mais en réalité 2 mois à cause de retard dû à la pandémie. Avec Sacha Kaki. Donc, en réalité, j'avais toutes ces questions moi en tête en tant que généticien, et puis j'ai assisté à une conférence de Sacha en 2018, je crois, et je me suis dit ah c'est le moment de passer à la suite, et c'est ce que je vais vous expliquer. Donc les questions qu'on souhaite poser ici avec ce projet, ce sont ces deux questions-là. Un, est-ce que nos gènes ont joué un rôle dans la sélectivité de la peste noire? J'entends par là que des individus sont morts avec plus de probabilité que d'autres, parce qu'ils avaient certaines mutations dans leurs gènes qui ont fait qu'ils ont eu étaient plus susceptibles à cette infection. Et la deuxième question, c'est, si ça c'est vrai, est-ce que ces gènes ont été sous sélection naturelle depuis lors? Ce qui voudrait dire qu'il y a eu des conséquences biologiques et évolutives sur l'homme, et qu'on peut peut-être encore voir et mesurer aujourd'hui. Alors, évidemment, je ne vais pas pouvoir répondre à ces questions aujourd'hui, je vous ai dit, le projet vient juste de commencer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de se dire, de réfléchir ensemble sur la plausibilité de nos hypothèses. Est-ce qu'il est plausible de penser que la peste noire, que nos gènes ont eu un rôle dans la susceptibilité à la peste noire? Et est-ce qu'il est aussi plausible de penser que ces gènes ont été sous sélection naturelle? Donc ça m'amène ici à introduire un certain nombre de concepts en génétique des populations, qui me semble être important de partager avec vous. Alors, comment vérifier si ces hypothèses sont plausibles? Je vais tout simplement aller me concentrer sur d'autres infections que la peste noire, parce qu'on sait un certain nombre de choses sur ces autres infections, et on peut peut-être transposer ce qu'on a appris à cette peste. Et donc la première question que je vais poser, c'est est-ce que nos gènes peuvent vraiment nous rendre plus ou moins susceptibles à des infections. Et c'est une question qui paraît assez anodine, mais en réalité, elle ne l'est pas. Il faut bien comprendre qu'ici, les maladies infectieuses, elles ont été comprises, selon la théorie microbienne, comme étant dues à des pathogènes. Donc, principalement, si on est malade ou pas, c'est parce qu'on a été exposé à ce pathogène. Et donc, le pathogène est en cause. Qu'est-ce que vient faire notre génétique là-dedans ? Mais en réalité, il faut bien comprendre qu'une infection, c'est une interaction, voire une confrontation entre un pathogène et un organisme, le nôtre, qu'on appelle l'hôte humain. Nous sommes l'hôte de pathogène. Donc l'hôte, lui-même, a un système de défense qui est le système immunitaire. Ce système immunitaire, c'est quoi ? C'est des protéines, des cellules, ainsi de suite, qui sont elles-mêmes codées par nos gènes. Donc si on imagine qu'il y a des mutations dans nos gènes qui nous rendent un peu plus... font que notre système immunitaire est plus ou moins efficace, eh bien, on va être plus malade que d'autres quand on est exposé à ces pathogènes. Donc oui, là, il y a une certaine logique ici à penser que les maladies infectieuses sont certes dues à des pathogènes, mais ce sont aussi des maladies génétiques. Et quand j'entends par là que notre génome peut avoir un effet. Alors, parlons un petit peu d'autre chose que la peste, du coup. Est-ce que nous avons des exemples dans la recherche chez l'homme de mutations qui changent notre chance d'avoir une maladie? Alors, évidemment, je suis allé prendre la maladie que vous connaissez tous le plus, puisqu'on entend parler beaucoup ces deux dernières années, il s'agit de la Covid-19. Alors, vous savez que la Covid-19 va infecter les gens selon différents critères, qui sont l'âge, le sexe et aussi des comorbidités. Peut-être que vous avez aussi entendu parler du fait que nos mutations, notre génome, nos polymorphismes peuvent également avoir un effet sur notre probabilité de faire une Covid-19 sévère ou non. Alors, comment est-ce qu'on fait pour démontrer ça? Je vais vous expliquer en détail ce graphique, parce que je vais en montrer 15 autres. Donc, c'est important vraiment que vous sachiez de quoi il en retourne. Alors, c'est ce qu'on appelle un Manhattan plot. Vous verrez l'analogie avec ces grands immeubles qui sont représentés ici. C'est pour ça qu'on appelle ça Manhattan. Sur l'axe des X, celui qui est en bas, ça représente nos 22 chromosomes. D'accord ? Chaque point est une mutation dans le génome. Okay ? Et sur l'axe des Y, nous avons le niveau d'association statistique entre cette mutation et la maladie. En gros, quand on est en bas, ça veut dire que les mutations n'ont aucun effet sur le risque d'avoir la Covid-19. Et quand on a ces cheminées de points, ces immeubles-là de points, ça veut dire qu'à cet endroit-là dans le génome, il y a des mutations qui changent nos probabilités d'avoir la maladie. Donc, ce Manhattan plot a été fait à partir de à peu près 8000 individus qui avaient la Covid-19 sous sa forme la plus grave, donc des personnes hospitalisées qui avaient des complications, et qui ont été comparés à 1 million d'individus pour lesquels on a le génome, 1,7 million d'individus, où on sait qu'ils n'ont pas eu la maladie. Et quand on fait ça, on voit que, déjà, on a cet océan de points où il ne se passe rien du tout, ce qui nous laisse penser que, bon, que la plupart de notre génome n'a aucun effet sur notre risque d'être hospitalisé à cause de la Covid-19. Cependant, vous voyez entouré dans ces rectangles rouges des endroits où il y a des cheminées de points, des cheminées de mutations qui sont toutes liées les unes entre les autres, hein, et qui nous permettent de cibler des gènes qui, eux, ont un rôle dans la susceptibilité à la Covid-19. Donc le fait qu'on voit ces cheminées nous dit déjà, répond déjà à notre question, oui, nos gènes peuvent changer notre susceptibilité aux maladies. Alors, je ne vais pas détailler exactement quel gène, mais vous pourrez remarquer, par exemple, ABO, qui est le gène responsable du système ABO des groupes sanguins dont je vous ai parlé. On ne va pas aller beaucoup plus loin que ça, on pourra en reparler si vous le voulez. Donc ça, c'est un exemple. Évidemment, ça ne se limite pas à la Covid-19. Je ne vais pas vous faire un exposé exhaustif de toutes les mutations qui ont été trouvées et qui nous rendent susceptibles ou résistants à des maladies infectieuses, parce qu'il y en a un paquet. Mais je vais juste faire un petit récapitulatif de celles qui sont les plus marquantes. En premier, la mutation HBS dans le gène HBB de l'hémoglobine, tout en haut. Donc cette mutation-là, elle est responsable de la maladie de drépanocytose qu'on trouve surtout en Afrique. Et même si elle rend malade, elle nous protège aussi de manière très forte contre le paludisme. En deuxième ligne, j'ai déjà parlé de cette mutation, la mutation Delta 32 du gène CCR5 qui, elle, nous protège contre le virus du VIH. également trois mutations qui sont identifiées comme nous permettant d'être plus résistants à la lèpre, et ainsi de suite. Une mutation FUT2 qui est d'ailleurs très fréquente en Europe, qui protège contre la gastroentérite, et ainsi de suite. Et alors, ces mutations, si on regarde la quatrième colonne ici, avec écrit MAF, qu'est-ce que j'entends par là? C'est la minor allele frequency, c'est la fréquence de la mutation qui nous permet de résister dans la population. Et donc là, on voit que ce sont des mutations qui ne sont pas dans trois individus pris comme ça. Non, il s'agit vraiment de 10%, 30%, 40% de la population qui porte ces mutations. Et on voit également dans la dernière colonne, ici, c'est l'augmentation, là, c'est la résistance que confèrent ces mutations. On peut voir ça ici, comme par exemple pour HBS, par la chance qui nous permet d'augmenter notre résistance. Donc on augmente ici avec HBS par 7 notre chance de résister à la maladie. Donc ce sont des effets très forts. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu que oui, nos gènes peuvent nous rendre plus ou moins susceptibles aux infections. Alors, quid de la peste noire? Je ne sais pas. Nous le saurons bientôt. Alors, d'ailleurs, une petite parenthèse, on peut tout à fait envisager de faire ce genre d'études ici sur la peste noire. Pourquoi? Parce que malheureusement, elle est encore active et on a encore des épidémies qui émergent, en particulier dernièrement à Madagascar, et qui nous permettraient peut-être de recruter des patients ici atteints et non atteints, même s'ils ont été exposés, afin de comparer leur génome et trouver des mutations qui changent leur susceptibilité. Cependant, ce n'est pas l'angle que nous avons pris, parce que notre angle est celui de l'évolution et de la sélection naturelle. Et j'en viens à ma deuxième question. Est-ce que notre espèce a évolué pour résister aux maladies infectieuses? Alors, c'est une question absolument cruciale et fondamentale en biologie. Cette question revient à demander... Est-ce que nos polymorphismes, comme ABO, sont le résultat du hasard, changement stochastique dans le temps, on a un peu plus de haut par-ci, par-là, juste par chance, ou, à l'inverse, c'est le résultat de la sélection naturelle? Et cette question, on la retrouve constante, partout, dans toutes les disciplines en biologie, parce qu'elle nous permet vraiment de comprendre la raison des maladies et la raison de comment fonctionne notre évolution. Alors, pour faire au plus épuré de cette explication de sélection naturelle contre changement qu'on va appeler stochastique, je vais vous représenter ici deux graphiques qui représentent l'évolution dans le temps, axe des X, d'une mutation. L'Y représente la fréquence dans la population. Sur un côté du ring, vous avez Darwin. Et sur l'autre côté, vous avez Moto Kimura, qui est le principal investigateur de la théorie de la neutralité. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux théories? D'un côté, vous avez la sélection naturelle, et une mutation sous sélection naturelle, elle va, quand elle est en contact avec un changement environnemental, augmenter en fréquence très rapidement jusqu'à atteindre ce qu'on va appeler fixation. Elle vient d'apparaître, elle a 0% de fréquence, en réalité 1 sur la taille de deux fois la taille de la population, et elle va augmenter rapidement en fréquence, comme ça, de manière presque exponentielle, pour arriver à 100%. Tout le monde a la mutation, et ce processus, il se fait par, encore une fois, sélection naturelle, c'est-à-dire reproduction différentielle des individus en fonction de leur génotype, de leur mutation. Très bien. Donc là, l'hypothèse qu'on peut faire pour, par exemple, le système ABO, c'est que le groupe O est moins fréquent, par exemple, parce qu'il a été contre-sélectionné, donc sa fréquence a diminué rapidement en fréquence par l'effet de la sélection naturelle. À ça, le mathématicien Moto Kimura va nous répondre l'inverse. Tout ça, c'est du hasard. Les mutations, quand elles évoluent, même en présence d'un changement environnemental comme la présence d'une nouvelle bactérie ici, Ce changement est complètement stochastique. En tant que statisticien, lui, il n'y voit pas que du hasard. Et si O est fréquent, c'est uniquement par chance. Fréquent ou moins fréquent, c'est uniquement par chance. Alors, ça fait à peu près maintenant 70 ans qu'on se pose cette question chez l'homme. À quel point nos polymorphismes sont le résultat de la sélection naturelle ou de ce que je vais appeler neutralité? Et on a évidemment déjà des éléments de réponse. En fait, le premier exemple de ce que je vais appeler d'adaptation génétique chez l'homme, qui a été relativement accepté et bien démontré, c'est celui de HBS, dont je vous ai parlé déjà précédemment. Donc c'est une mutation qui cause la drépanocytose. C'est une hypothèse qui a été proposée par Allison en 1954. et qu'on va le voir a été largement confirmé aujourd'hui. Donc cette mutation, quand on l'a en deux copies, ça nous donne une anémie très sévère qui peut être mortelle réellement et qui va être contrebalancée par un autre effet, c'est que quand on a cette mutation, on est résistant au paludisme, pardon, j'avais la malaria. Donc cette mutation, on la trouve surtout en Afrique subsaharienne, là où le paludisme est présent. Ce qui a amené donc Allison, un peu exact comme on l'a fait avec ABO et la peste, à faire cette corrélation géographique entre présence d'un pathogène, ici Plasmodium falciparum, responsable du paludisme, et la présence d'une mutation chez son hôte, les populations africaines ici, avec ces mutations HBS. Alors, est-ce que cette hypothèse qui a été faite en 54 est vérifiée? Alors, aujourd'hui, on a des données qui sont bien plus complètes que celles qu'on pouvait avoir à l'époque. Donc ici, je vous représente en haut la répartition assez précise de cette mutation HBS dans la population. En rouge est représentée la fréquence de la mutation. Donc on voit qu'elle est surtout fréquente en Afrique subsaharienne, en dessous de la forêt équatoriale principalement. Et quand on compare ça à, cette fois, l'endémicité de la malaria, du paludisme, excusez-moi, la fréquence à laquelle on va dire la maladie dans la population, on voit que c'est à peu près au même endroit. Donc là déjà, cette corrélation géographique, elle reste quand même assez claire. Deuxièmement, encore un Manhattan plot, ici je représente à quel point des gènes dans notre génome sont associés avec la résistance au paludisme. Et qu'est-ce qu'on trouve? HBS. Donc effectivement, cette mutation, c'est clair, elle change nos chances d'avoir le paludisme de forme sévère ou pas. Est-ce que la mutation est sous sélection? Donc ça, c'est un travail qu'on a fait récemment. On a modélisé mathématiquement le changement de fréquence de cette mutation HBS dans les populations africaines, et on voit qu'elle est apparue probablement il y a 30 000 ans, qu'elle a été sous sélection naturelle assez forte depuis, et qu'elle est apparue principalement dans des populations qui n'étaient pas adaptées à la forêt équatoriale. Donc probablement que le paludisme était plus fréquent dans les zones de savane, et qu'elle a été transmise récemment aux populations qui, elles, sont habituées à vivre dans la forêt équatoriale, c'est-à-dire les populations pygmées. Et cette mutation a été transférée par métissage il y a à peu près 6000 ans, et a été également sous sélection depuis. Très bien, donc on a cet exemple en Afrique, est-ce que c'est le cas aussi en Europe? Est-ce qu'on a des exemples de mutations sous sélection naturelle en Europe qui auraient un lien avec les maladies infectieuses? Alors, en 2015, une étude très intéressante a mesuré la différence entre les populations de l'âge de bronze et les populations actuelles. Et en faisant cette comparaison, on peut essayer de trouver les gènes qui ont le plus évolué dans le temps au cours de ces derniers 3000 ans. Et en faisant cette approche, encore à Manhattan Plot, on voit ici, non pas des gènes associés avec une maladie, mais on voit les gènes qui ont évolué plus vite au cours des 3000 dernières années. Alors, il y a des gènes qui sont responsables de la couleur de la peau, par exemple, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y en a un qui m'intéresse en particulier, c'est ici TLR1-6-10, donc les toll-like receptors, récepteurs de petites toll, qui sont très connus pour être notre première ligne de défense immunitaire contre les pathogènes. Donc ce gène, TLR1, en Europe, a évolué très rapidement dans le temps, au cours des derniers milliers d'années. Alors, qu'est-ce que font ces mutations? Cette fois-ci, ce sont des Manhattan plots pour des maladies. Ces mutations, elles nous rendent plus susceptibles aux allergies. Vous voyez ici TLR1 qui sort encore. La même mutation qui a été avantagée au cours des derniers siècles nous rend beaucoup plus susceptibles aux allergies que les personnes qui n'ont pas ces mutations-là. Également, cette même mutation ici, elle va changer notre susceptibilité à une infection par un autre pathogène qui s'appelle Helicobacter pylori. Alors, on a contribué aussi à mieux comprendre quel est l'effet de cette mutation sur notre système immunitaire avec une approche différente. Au lieu de vérifier si la mutation change notre susceptibilité à une maladie, on va plutôt prendre un système qu'on va appeler ex vivo. On prend des cellules d'individus, des cellules immunitaires, ici des monocytes, de populations européennes et africaines. Et au lieu, évidemment, d'infecter des individus, on infecte leurs cellules, on n'a pas le droit. Et donc on infecte ces cellules-là et on va aller mesurer leur réponse au pathogène. Donc, comment réagit une cellule d'un individu européen et d'un individu africain quand on le met en contact avec un bout de pathogène ou un pathogène entier? Cette manière de faire nous permet de mieux comprendre, vraiment plus mécanistiquement, au niveau cellulaire, quelle est la réponse de nos cellules à un pathogène. Et donc, on fait ça aussi en mesurant donc, ce qu'on appelle l'expression de gènes. Donc, tous les gènes du génome regardent à quel point ils bougent avec ce contact avec un pathogène. Et on voit quoi? On voit qu'il y a une mutation, que chez les Européens et pas en Afrique, qui a un effet énorme sur notre réponse immunitaire, et cette mutation, elle est dans TLR1. Il s'avère que cette mutation, elle a 70% de fréquence en Europe, et absente des autres populations humaines, ce qui est très inhabituel. Très bien. Donc là, avec cet exemple d'HBS ou de TLR1, j'espère vous avoir fait comprendre ici que effectivement notre espèce peut évoluer pour résister aux maladies infectieuses. Maintenant, on peut se demander la question, est-ce que la peste noire a eu ce même rôle? Est-ce que des mutations nous rendent susceptibles à la peste noire, d'un côté, et est-ce que ces mutations ont augmenté en fréquence, diminué en fréquence dans le temps, sous l'action de la sélection naturelle? Donc c'est la question qu'on souhaite se poser finalement avec ce projet développé avec Sacha. Peut-on démontrer que nos gènes ont joué un rôle dans la sélectivité de la peste noire, et également, est-ce que les pandémies ont changé nos gènes? Alors, comment faire pour répondre à cette question? C'est ça qui nous intéresse. Première possibilité, remonter dans le temps et échantillonner des victimes et des survivants de la peste noire. Mais malheureusement, l'ANR, enfin, l'Agence nationale de la recherche, n'a pas financé ce projet, trop cher. À l'inverse, ce qu'on peut faire, c'est simplement s'intéresser à ce que ces victimes et ces survivants de la peste noire nous ont laissé comme patrimoine, c'est-à-dire leur squelette, vous en avez entendu parler ce matin. Et donc on peut imaginer très bien aller prendre l'ADN des individus qui sont morts de la peste noire, l'ADN des individus qui ont survécu à la peste noire, comme ce monsieur qui a l'air très content d'avoir survécu, et aller comparer ces ADN, tout simplement. D'accord ? Et donc pour ça, on va prendre une approche de paléogénomique. Alors je tiens à faire remarquer un article tout à fait exceptionnel que vous n'avez pas vu avant, qui est publié en 1977 par M. Doughty, qui a déjà eu cette idée, en fait, qui n'a pas eu de suivi dans la recherche, et qui a donc mesuré les groupes ABO sur une des grandes cohortes d'individus issus de cimetières, et qui a mesuré qu'en fait la fréquence du groupe O effectivement était à 60% au XIIIe siècle, elle était à 46% au XVIe siècle, et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début, à 43%. Donc il y a un changement de fréquence du groupe ABO, faites-moi confiance, qui est particulièrement rapide, parce qu'on ne voit pas des différences aussi rapides normalement en l'espace de quelques siècles, et qui laisse penser effectivement que peut-être quelque chose s'est passé. Alors nous, notre but ici, c'est pas d'aller quantifier ABO avec des méthodes comme anticorps et ainsi de suite, mais c'est de le faire à une échelle génomique. Donc on en a pu en parler un petit peu précédemment. Au cours des dernières années, il y a un vrai bouleversement méthodologique en génomique, en archéologie également et en paléontologie même. Et ce bouleversement, il consiste à tout simplement à aller récupérer dans les os des traces d'ADN qu'on va pouvoir ensuite séquencer. En réalité, cette révolution, on va dire, méthodologique, elle est due à une révolution technologique qui est principalement liée à l'apparition de ces séquenceurs à très haut débit qui nous permettent de lire l'ADN de manière très rapide et en très très grande quantité et de manière presque aspécifique, donc aveugle, on va dire. On peut vraiment séquencer tout l'ADN qui est présent dans notre échantillon. Alors notre objectif ici n'est pas de séquencer la bactérie, ce sont des collègues qui le font. Nous, encore une fois, le but est de séquencer le génome de l'homme. Alors, quel site choisir pour ce projet? Là, je me suis tourné vers Sacha parce que je n'ai que très peu de connaissances à ce sujet. Et Sacha m'a parlé d'un site particulièrement intéressant, enfin de deux sites particulièrement intéressants qui se situent à Toulouse. Pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants? Parce qu'en fait, d'un côté, on a un cimetière, donc une fosse collective où on a beaucoup d'individus qui ont été retrouvés. Ce site s'appelle 16 rue des 36 ponts. Et il y a quand même de bons arguments pour penser que les individus sont victimes de la première vague de la deuxième pandémie, pour plusieurs raisons. La première, qui a déjà été évoquée, la présence de monnaie qui date vraiment de cette période 1348-1349, donc le moment de la première vague, des datations carbone 14, mais également la présence de Yersinia pestis dans les dents d'au moins un individu de ces sépultures collectives. L'autre point important, c'est qu'il y a beaucoup d'individus, et moi en tant que génomicien, j'ai besoin de centaines d'individus pour pouvoir faire ces études, ces Manhattan Plan que je vous ai présentées juste avant. Un deuxième avantage de ce site-là, c'est qu'à 30 mètres de là, ou 5, je ne sais plus, 30, 50 mètres, je ne sais plus, 30 mètres de là, on a un autre site qui s'appelle Saint-Michel, et c'est un cimetière, lui, qui est ecclésial, où on trouve des tombes qui, elles, sont individuelles et qui datent de périodes qui sont précédentes à la peste noire ou qui sont postérieures à la peste noire. Et on va se servir tout simplement de ce cimetière-là comme contrôle. On veut, ici, on espère trouver des individus qui ont soit survécu eux-mêmes à la peste noire ou des individus qui sont les descendants de ces survivants. Voilà nos deux sites, et donc on va simplement aller séquencer l'ADN de tous ces individus autant qu'on peut. On va obtenir des fragments d'ADN sur les génomes de ces individus, et avec un peu de chance, on s'attend à ce que, en regardant les génomes des individus qui viennent de cette tombe, de ces sépultures collectives qu'on pense être ici uniquement des victimes de la peste, une mutation, représentée en jaune ici, soit un peu plus fréquente que dans notre groupe contrôle d'individus qui sont des survivants ou des descendants des survivants de la peste. On analyse ça avec des modèles statistiques, et peut-être qu'on pourra, on sera en mesure de faire un Manhattan plot ici de notre susceptibilité génétique à la peste noire. Dans l'espoir qu'on trouve effectivement un signal, on peut ensuite aller se poser la question, est-ce que cette mutation qui nous rend plus ou moins susceptibles à la peste noire, a été sous sélection naturelle ou pas? Et là, on est dans le cadre parfait pour poser cette question. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on peut mesurer la fréquence d'une mutation dans le passé avec ses restes fossiles d'un côté, et la mesurer aujourd'hui avec des prélèvements sanguins simples de la population toulousaine, par exemple, on va pouvoir aller quantifier directement à quelle vitesse la mutation a augmenté en fréquence, ce qui est représenté ici par cette pente rapide sous sélection positive, sélection naturelle, pardon, alors que dans le cas de la neutralité, cette augmentation est minime. Donc on va simplement comparer la fréquence des mutations dans le passé à celle d'aujourd'hui, et ça nous permet de quantifier directement, de déterminer directement quelle mutation sous sélection naturelle ou pas. Donc, je pense ici qu'on peut répondre à cette question oui. On peut démontrer si nos gènes ont eu un rôle dans la sélectivité de la peste noire, et également que cette pandémie a pu changer nos gènes. Évidemment, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas la réelle réponse à ces questions-là, parce qu'on en est encore aujourd'hui à forer les os pour récupérer de l'ADN. Donc ici, c'est un os pétreux d'un individu issu du site de Saint-Michel, os pétreux qui se trouve ici, hein. Et donc, à gauche, c'est avant intervention, à droite, c'est après intervention. Vous ne voyez pas beaucoup de différence, mais quand même, ici, on a creusé un petit peu l'os pour essayer de récupérer cette poudre d'os. Alors, pourquoi l'os pétreux et pas autre chose? Parce que c'est l'endroit du squelette qui est le plus dense de tout le squelette, réellement. Et donc, c'est l'endroit où on trouve le plus d'ADN humain. On ne s'intéresse pas ici aux dents où on peut trouver Yersinia pestis, par exemple. Nous, ce qu'on veut, c'est le plus d'ADN humain. Et en réalité, il a été découvert au cours des 10 dernières années que cet os pétreux contient beaucoup plus d'ADN endogène humain, donc l'ADN du squelette qui nous intéresse, que le reste des prélèvements qu'on peut faire. Au passage, en obtenant ces données génomiques sur des individus victimes et survivants de la peste, on peut déterminer si d'autres facteurs de risque ont eu un rôle. Pourquoi? Parce que cet outil génomique nous donne d'autres informations que uniquement des mutations le long de notre génome. Évidemment, le sexe des individus, qui viendrait en complémentaire avec ce que Sacha a abordé ce matin avec des données protéomiques. On peut déterminer de manière tout à fait fiable si l'individu est un XX ou XY, donc une femme ou un homme, tout simplement en vérifiant s'il y a des bouts d'ADN qui se trouvent sur le chromosome Y ou pas. On peut aussi déterminer les niveaux de parenté entre les individus, à quel point ils sont, est-ce qu'ils sont frères, sœurs, est-ce qu'il y a des parents, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des questions qui ne sont pas forcément liées à des facteurs de risque pour la peste, mais quand même, si vous avez des questions, si je peux vous en reparler, on ne va pas déborder trop. La détermination de l'âge, donc ça c'est un sujet qui m'intéresse en particulier, parce qu'on a, dans notre laboratoire, on a mis au point une méthode d'estimation de l'âge des individus à partir de l'ADN. Vous allez me demander de quoi je parle. En réalité, vous savez peut-être que l'ADN, lui, il est le même tout au long de la vie. Par contre, notre même génome donne plein de cellules différentes. Des cellules de peau, des cellules de l'œil, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui fait qu'un même ADN donne des cellules aussi différentes? C'est parce que cet ADN est recouvert par des marques qu'on appelle épigénétiques, qui vont faire que certains gènes sont exprimés et pas d'autres. Et en réalité, ces marqueurs épigénétiques, ils changent avec l'âge. Et donc, on peut voir ici... se servir de ces marqueurs épigénétiques comme une horloge qui nous permette de dater l'âge de la mort des individus. Donc c'est quelque chose qui n'a jamais été fait pour le moment, mais qu'on aimerait bien mettre en place. Ici est représentée la corrélation entre l'âge des individus et celui prédit par la méthylation, par l'épigénétique. Vous voyez que c'est assez fiable. Et l'intérêt ici, par rapport à la sémantochronologie, c'est qu'on va pouvoir et aux autres méthodes classiques, c'est qu'on va pouvoir aller dater de manière fiable l'âge des individus pendant tout le long de la vie. Également, on peut en savoir plus sur les origines ethniques des individus. Dernier point, donc très rapide. Quelles conséquences sur la santé? Alors, vous avez pu comprendre déjà avec les exemples que j'ai donnés précédemment. que certaines des mutations dont on a parlé changent nos risques d'avoir des maladies aujourd'hui. La mutation TLR1, par exemple, nous rend plus susceptibles aux allergies. Alors, derrière cette petite observation, il y a en réalité toute une théorie. Cette théorie, c'est la théorie hygiéniste. Et je vais la représenter ici par une balance. En fait, il faut voir notre système immunitaire comme une balance entre deux pôles. D'un côté, on a la résistance aux infections. Notre système immunitaire va être prompte, on va dire, à répondre aux pathogènes dès qu'il y en a. Donc là, on a clairement la sélection naturelle qui va tendre vers cette résistance aux infections, donc faire à ce que nos gènes soient tout à fait efficaces pour contrer ces pathogènes. Mais il y a un prix à payer à ça, et ce prix, c'est une hyper-réactivité d'un système immunitaire. Et cette hyper-réactivité, elle entraîne quoi? Et ça, c'est sûr, on sait, les allergies, mais également des maladies auto-immunes. Donc en réalité, si notre système immunitaire est, on va dire, très efficace, trop surstimulé, ainsi de suite, au fil de l'évolution, on a un prix qui est celui d'avoir plus de maladies auto-immunes. Et donc la question, elle est là. Et si la peste noire a effectivement changé nos gènes, est-ce qu'elle a eu des conséquences aujourd'hui sur notre risque d'avoir des maladies auto-immunes ou des maladies allergiques? Donc ça, on pourra le déterminer une fois que le projet sera terminé, en comparant simplement les mutations qu'on a identifiées avec celles qu'on sait aujourd'hui comme étant associées avec des maladies auto-immunes. Et je vais m'arrêter là en remerciant donc l'assistance et puis mes collègues, ainsi que PACEA, et puis donc le Musée de l'Homme, là où l'ADN est en train d'être extrait. Merci à vous.